Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Salut à tous, je suis Maxime Dupuis, bienvenue dans l'EFC Stream Team. Ce matin, j'étais parti sur une toute autre histoire, j'avais bien envie de l'afficher, de le mettre bien mal, voire de lui causer des problèmes judiciaires pour des propos tenus il y a peu. En gros, Martin, il faisait peut-être aujourd'hui sa dernière émission. Et puis il est arrivé, la mèche rabattue, regard de chien battu, et râleur, ouais, il était râleur. Et vous le savez, normalement le râleur c'est moi. Lui, c'est l'enjoué, ou selon les détracteurs, le ravi de la crèche, on allume une ampoule, il est content, il se croit devant le soleil.
Enfoiré.
Bref, il est arrivé dans la rédaction et tout de suite il a lancé des « Oh, je suis déglingué, je viens de vivre la pire matinée de ma vie, je vais pas être bon, je te préviens. » Je suis allé faire réparer mon téléphone, me dit-il, ça devait durer une heure, j'ai passé 1h40 sans wifi à rien faire. Et puis après, là, c'était le coup de grâce, il dit « Avant ça, je suis allé poser mon fils à l'école, la maîtresse m'a dit « Il n'y a pas école mardi » et là, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'était mon jour de repos, je vais devoir garder mon fils et j'avais prévu un foot et le dernier ciné de ma vie. Et en plus, j'ai même pas déjeuné ce matin. Bref, il n'y a vraiment rien qui allait, il avait le moral à zéro. Heureusement, avec Adrien, notre réalisateur, on est allé manger un morceau, on a discuté de choses et d'autres, de belles histoires, de vacances à venir, de Daniel Mitterrand, du temps qui passe. Et tout est redevenu dans l'ordre et vous avez, grâce à ça, devant vous, un Martin radieux et souriant. N'est-ce pas, Martin ?
Alors, déjà, moi qui suis pas très bon, ça reste quand même un niveau au-dessus de la moyenne. Ça, je crois qu'on est tous d'accord pour le dire. Et ensuite, aux yeux de la France, tu me fais quand même passer pour un mauvais papa. Donc, parce que c'est pas très 2021 de dire « Putain, j'ai pas envie de garder mon fils.
» Non, mais...
Merci, Maxime. J'espère que ma femme n'écoutera jamais de ce podcast parce que là le divorce, mais... là, elle a la garde mais jusqu'à la fin de sa vie.
Non mais
je veux plus mon gamin.
Ça fait partie de ces trucs qu'on n'ose pas se dire, mais qui font suer, c'est vrai. T'as ton jour de repos en semaine, tu dis, je suis peinard, j'ai fait mon programme, et là t'apprends qu'il y a grève, que tu vas avoir le marmot sur les bras toute la journée et que ton cinéma il saute. Surtout quand tu es allé voir la dernière fois au cinéma, je crois, Muche.
C'est vrai que le week-end dernier, je suis allé voir Muche avec mon fils. Une histoire de champignons, c'est horrible, je vous le conseille pas. Non mais enfin, voilà, tu me fais passer pour ce que je ne suis pas. J'adore mon fils, j'aime mon fils plus que tout, mais j'avoue que des fois j'aime bien avoir ma petite journée tranquille. Maxime, tu sais ce que c'est glander
sur évidemment, le petit
ce matin, un petit Derrick, allumer la PlayStation, voilà quoi.
C'est son petit jardin secret, tu vois, sa petite journée tranquille.
Petit jardin secret, mais je remarque que mon jardin est de moins en moins secret, Maxime. Je te dirai plus rien. Hein, parce que là, il est dévoilé. Maxime, tu lis un truc, il le dévoile à je sais pas combien de personnes nous écoutent, 20 000 personnes.
Mais le pire, c'est que j'allais pas raconter ça en arrivant, et c'est toi ce matin, tu m'as. Tu m'as foutu les poils, j'avais envie de pleurer. Je me suis dit, il faut lui remonter le moral.
Ah non, mais je suis pas bien. Bon, en plus c'est pas les sujets du jour qui vont me remonter le moral, hein, Maxime.
Ouais.
On lance le sommaire ou on continue sur ma vie ?
Bah, on va y aller quand même. Il faut bien le démarrer, voilà, après ce moment de...
Alors, il y en a un qui va encore plus mal que moi. C'est Antoine Griezmann.
Bah, Il va un petit peu mieux quand même.
Il va un petit peu mieux. Donc, on parlera d'Antoine Griezmann. On se demandera si, à 30 ans, après deux saisons ratées au Barça et un début assez compliqué à l'Atlético, s'il n'est pas en train de devenir... Allez. C'est volontairement provocateur, mais un joueur un petit peu comme les autres, Antoine Griezmann.
Alors, on aura un début de réponse ce week-end avec Atlético Barça et évidemment avec la Ligue des Nations, puisque la France dispute le Final Four la semaine prochaine. Et la France, évidemment, ce sera sans Olivier Giroud une nouvelle fois. Ce sera notre deuxième sujet. Et on va se poser la question toute bête, est-ce que Deschamps est rancunier ? Et sous-entendu, est-ce que Giroud est condamné ? On parlera aussi un peu des autres parce que il a le profil d'autres joueurs qu'on n'a pas tout de suite revus en équipe de France, mais qu'on a fini par voir. Et on parlera aussi de Steve Mandanda, qui est dans une situation un peu différente, mais qui lui aussi a été mis à l'écart pour le prochain rassemblement.
Et dimanche, c'est le derby Saint-Étienne-Lyon, le derby de la peur pour Saint-Étienne qui est lanterne rouge. c'est l'occasion de se poser une vraie question, alors que la Ligue 1 a démarré depuis, allez, quoi, un gros mois et demi, on va dire. Est-ce que Paqueta, le Lyonnais, est aujourd'hui le meilleur joueur de Ligue 1? Voilà, c'est un débat qu'on ouvrira en fin d'émission.
Pour ceux qui... Vous n'avez pas les images, mais je vois Martin avec son gros micro, j'ai l'impression d'être dans une émission de Libre Antenne des années 90, voilà, tout simplement.
Exactement, exactement. Mais alors, on ne va pas parler de ce qui se passait sur Libre Antenne des années 90, parce que ça pourrait dérailler. En tout cas, c'est ce que j'écoutais, moi.
Il y avait des gros micros, déjà.
Il y avait des gros micros, exactement. Il y avait des très gros micros. On démarre, Maxime ?
Allez, on y va.
Parce que je sens que là, tu es sur un fil, tu es sur la tangente.
Allez, c'est parti.
Tu es le baril de poudre. Il ne faudrait pas une étincelle parce que tu pourrais exploser. Là, je sais.
Et on va parler d'Antoine Griezmann. Atlético-Barça, c'est samedi. C'est les grandes retrouvailles entre Antoine Griezmann et le FC Barcelone. Et ces retrouvailles tombent presque à point, puisque Antoine Griezmann a marqué enfin avec l'Atlético, c'était à Milan en Ligue des Champions. Griezmann qui a retrouvé un peu le sourire, qui a d'ailleurs parlé, puisque c'est toujours plus simple quand ça va un peu mieux. Mais on va quand même se poser la question suivante, parce qu'on ne va pas s'arrêter à cette période-là, on va allonger un peu le curseur et se demander si à 30 ans, Antoine Griezmann, au moins en club, est devenu un joueur comme un autre. C'est la question qui se pose. C'était début difficile avec l'Atlético et évidemment une fin très compliquée, même 2 ans très compliqués avec le FC Barcelone.
En fait, si on regarde ces statistiques froidement, j'allais dire bêtement, mais un but en 9 matchs en ce début de saison, 2 ans ratés au FC Barcelone, il a perdu très clairement 2 ans de, et puis entre 28 et 30 ans, donc c'est presque les 2 plus belles années pour un footballeur de sa catégorie. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un doute. Il y a un doute, c'est certain. Parce que la période est trop longue pour que ce soit du hasard, du détail ou que ça dépende des circonstances. Au Barça, on va dire qu'il y avait des excuses. Parce qu'on voit que maintenant qu'il est parti, le Barça ne va pas mieux. À l'Atlético, il n'en a plus. Donc, ce qui est certain, c'est que cette année, il va devoir performer à l'Atlético, il va devoir prendre l'équipe sur ses épaules, il va devoir gagner des titres aussi, parce que c'est ce qui lui manque en club. Rappelons que Griezmann, par exemple, n'a jamais été champion en jouant au FC Barcelone et à l'Atlético Madrid. Moi je reste persuadé quand même qu'il n'est pas un joueur comme un autre. Il traverse, oui, la pire période de sa carrière en 2021. Elle succède déjà à une période compliquée en 2020. Je vais revenir sur ses déclarations après son but en Ligue des Champions. Je pense que tout est là. Il nous dit que les critiques étaient justifiées, je ne me sentais pas bien et je ne trouvais pas le moyen de m'en sortir. Et si j'avais un reproche à lui faire à Antoine Griezmann, ce serait ça. J'en ai déjà beaucoup parlé ici. C'est ce qui sépare aujourd'hui Antoine Griezmann des meilleurs joueurs de sa génération. Des 2 meilleurs joueurs de sa génération, pour ne pas les citer, Ronaldo et Messi. C'est cette limite mentale. Ronaldo, quand il ne se sent pas bien, eh ben ça ne se voit pas. Il continue à marquer, il est hermétique aux critiques, il est hermétique aux moments qui vont bien comme aux moments qui vont mal. Il garde une moyenne qui est stratosphérique. Griezmann, il n'a pas ça. Alors non, ce n'est pas devenu un joueur lambda, non. Mais sa période, voilà, la période difficile qu'il trimballe depuis 2019, eh ben, ça montre qu'il ne peut pas s'asseoir à la table de Messi Ronaldo comme à un moment il l'avait annoncé. Quoi qu'il arrive dans sa carrière, il traînera ce boulet, cette parenthèse ratée au FC Barcelone. Cette espèce de... C'est une fragilité, voilà. C'est une fragilité qui prouve qu'il n'est pas fait du même bois qu'un Ronaldo, qu'un Messi ou même qu'un Mbappé. Qui, même quand ils sont dans le mal, eux, bah, ils marquent toujours. Voilà. Donc, voilà. Moi, c'est cette limite que je mets à Antoine Griezmann. Et c'est cette limite qui l'a amené là où il est actuellement, c'est-à-dire quand même dans des endroits assez sombres de sa carrière.
Mais c'est sûr que ce n'est pas un robot, Antoine Griezmann. On l'a déjà suffisamment dit aussi. C'est un joueur qui marche beaucoup à l'affect, qui a besoin d'être mis en confiance. Et c'est aussi pour ça que ça a toujours, ou 99%, marché en équipe de France, allez, 90%, parce que quand il a été mis dans les bonnes conditions par Didier Deschamps, il aime ça, il a besoin que ça tourne autour de lui, mais il ne le revendiquera jamais. C'est-à-dire que ce n'est pas un joueur qui va aller revendiquer la prise de pouvoir, on l'a vu pendant l'Euro.
Un petit peu à l'Euro, il a revendiqué une place, en tout cas, dans le.
Et c'était vraiment du Griezmann feutré. C'est presque pour ça qu'on l'a ressorti. C'est qu'il a osé dire... C'est pas nouveau, je préfère dans l'axe, parce qu'en plus, dans cette phrase-là, il y a derrière, mais je suis au service du collectif. Donc il y a toujours ce côté-là que finalement ne ferait pas un Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui aura d'autres défauts, mais au moins il va assumer ça. Et c'est vrai qu'il n'a pas ce côté robotique. Est-ce qu'il est devenu un joueur lambda ? Non. Il suffit de voir le France-Finlande de septembre. Quand ça fonctionne, c'est exceptionnel dans les petits espaces, sa manière de jouer, son intelligence de jeu. Mais c'est vrai qu'il y a toujours ce décalage, comme tu le dis, entre. une certaine manière d'être dans le recul au niveau psychologique et ce qu'il est capable de faire sur le terrain. Parce que sur le terrain, ça peut être une machine de guerre. On le voyait justement avec l'Atlético, première période. Il traverse la pire période de sa carrière, tu l'as dit. Et je mettrais 2021 en pire période encore plus que 2020. Parce que 2020, il y a le Covid, oui, etc. C'est une saison bizarre. Il y a eu une petite éclaircie à la fin du printemps avec le Barça. Il met 7 buts en 12 matchs en championnat. C'est pas dingo, mais ça reste dans les calibrages de sa carrière avec l'Atlético. C'est quasiment un peu plus d'un but tous les deux matchs. C'était plutôt pas mal. Le problème, c'est qu'il y a eu l'Euro et le club de Griezmann, on l'a souvent dit, c'était l'équipe de France. Et pour beaucoup de joueurs, c'était l'équipe de France. Et là, tout est parti de travers à l'Euro parce que lui n'a pas su revendiquer assez fort ce qu'il était, parce qu'il s'est fait un peu écraser par ce trio et tout s'est passé mal. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il peut redevenir le joueur qu'il a été? Je pense sincèrement que oui. Alors, à ceux qui tiraient la sonnette d'alarme et qui la tirent toujours, parce que finalement, il n'a mis qu'un but à l'Atlético, je trouve que c'est un peu injuste parce que voilà, il faut se réadapter. Il se retrouve dans une situation où il n'était pas. Alors, je pense qu'il était le bienvenu du vestiaire, ça n'y a pas de problème. C'est Luis Suarez aussi qui a dit ça, que tout le monde est assez content de l'avoir. On est toujours content généralement d'avoir Griezmann avec soi. Mais c'est vrai que dans le public, voilà, il y a un peu de retenue parce qu'il a quand même lâché l'Atlético. La fois où il a dit qu'il restait à l'Atlético, souvenez-vous, avant la Coupe du Monde 2018, la fameuse décision. En gros, c'était plus d'être une légende à l'Atlético qu'être un grand joueur parmi les autres au Barça. Et finalement, il avait fait le choix un an après. Donc ça restait un peu en travers de la gorge des supporters de l'Atlético. Et c'est tout à fait normal. Mais Griezmann, il a toutes les qualités pour se faire aimer dans ce club. Parce que évidemment, il en a la mentalité. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de lieu meilleur pour lui. Et si je devais lui faire un conseil aujourd'hui, c'est d'essayer d'aller au bout avec l'Atlético. Parce que finalement, il y a une aventure formidable entre eux. Un club et un joueur qui se ressemble dans un club aussi où, il faut le dire, il ne sera pas le paillasson et la variable d'ajustement comme il l'a été au Barça, où je trouve qu'il a eu ses torts, mais il a été quand même assez maltraité au FC Barcelone. Souvenez-vous que Man, dès qu'il y avait quelqu'un pour taper, où il fallait taper sur quelqu'un, il tapait sur lui pour soulager les autres égos. Donc je pense que là, au moins, il est dans un contexte qui est meilleur pour son épanouissement. Et tu l'as dit, il n'a que 30 ans. On ne peut pas se dire que ce joueur-là est sur la pente descendante aujourd'hui.
Mais ce que disait Koeman sur lui, ou l'attitude qu'avait Koeman envers lui, ça prouve aussi que s'il n'est pas un joueur lambda, il n'a pas tout fait pour être le joueur incontournable, le joueur qu'on respecte, le joueur sur lequel il n'y a aucune discussion. Et d'ailleurs, on le voit, Antoine Griezmann ne fait pas l'unanimité. Alors Maxime, on est peut-être tous les deux deux observateurs qui louons souvent son talent, mais cette limite-là, alors il y a deux choses. Il y a la façon dont il peut disparaître pendant certaines périodes en club, on l'a vu au Barça, en ce début de saison Atlético aussi, ce qui n'arrive jamais au tout meilleur, vraiment. Et on l'a dit, c'est parce que c'est une question d'environnement, de sensation, de confiance, etc. Et aussi un statut qu'il a soit du mal à assumer, soit voilà, tu l'as dit, Koeman l'a frontalement attaqué, ce que ne se permettraient jamais d'autres entraîneurs avec des très très grands joueurs.
Après, c'est le contexte du Barça, c'était beaucoup plus simple de l'attaquer lui qu'attaquer les autres. Et il n'allait pas attaquer Piqué, il n'allait pas attaquer évidemment Messi, mais pour des raisons bien, bien différentes. Donc je trouve que c'était un peu facile de lui taper dessus. Et surtout pour moi, c'était une erreur psychologique et managériale de faire ça avec un joueur dont on sait qu'il a besoin d'être mis en confiance pour fonctionner. Là, c'était vraiment la variable d'ajustement. Et sûrement que lui aussi a ses torts. Mais à un moment, quand la première année avec Valverde, il se retrouve milieu gauche, on ne peut pas faire pire. Il était sur son pied gauche. On lui demandait en gros de faire des débordements, voire d'être arrière-gauche. Donc c'est un peu compliqué. Voilà, il a les défauts de ses qualités. Peut-être qu'au final, il n'était pas fait pour jouer dans un club aussi gros, aussi marketé. Et ce n'est pas un mal. Il s'est épanoui dans une équipe de France qui était une équipe de France de col bleu. Bah, c'est peut-être ça dont il a besoin, d'être le chef, le général de ses cols bleus. Donc c'est pour ça qu'à l'Atlético, je pense qu'en tout cas, il s'est remis dans les bonnes conditions. Est-ce que ça marchera? Je ne sais pas encore, mais en tout cas, il a une belle occasion de le prouver, et notamment dès demain face au Barça. Je ne pense pas que ce soit un revanchard, Griezmann. Ce n'est pas trop dans l'état d'esprit. Mais je pense que s'il pouvait briller face au Barça, ça lui ferait excessivement plaisir.
Lundi, Antoine Griezmann sera à Clairefontaine et il ne retrouvera pas un de ses très bons potes en équipe de France, Olivier Giroud. Olivier Giroud qui a été une nouvelle fois écarté de la liste. Alors, Didier Deschamps nous a dit que c'était pour des raisons sportives. On n'est pas obligé de le croire. Olivier Giroud donc qui est écarté. Maxime, ça nous fait poser une question, parce que Didier Deschamps, ce n'est pas la première fois qu'il écarte des joueurs comme ça. Alors, ma question, elle est simple. Est-ce qu'il est rancunier, le sélectionneur des Bleus?
Alors, je ne pense pas qu'il soit rancunier. Je pense qu'il a de la mémoire. Et avoir de la mémoire, c'est une qualité, parce que vous n'oubliez rien dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire que vous n'oubliez pas ce qui a été fait en bien, ce qu'il prouve avec ses sélections. On lui a suffisamment reproché de reprendre les mêmes. On lui a suffisamment reproché d'appeler Olivier Giroud alors que ce dernier ne jouait pas, parce qu'il était conscient de ce dont il avait besoin, il faut le dire, et ce qu'il avait aussi sur le terrain. Et il est aussi conscient des choses quand elles vont mal. Benzema est revenu. Benzema, c'est presque l'exemple ultime. Je pense que Benzema, il y a une forme de rancune à un moment, mais humaine, par rapport à ce qui s'était passé. Les tags sur la maison, le fameux « il a cédé à une partie raciste de la France ». Il lui en a voulu et il l'a... Quand on dit qu'il ne s'expliquait pas là-dessus, c'est pas vrai. Il le montrait assez clairement qu'il y avait ça qui rentrait en ligne de compte. Mais le jour où il a eu besoin de lui, il est allé chercher. En fait, Didier Deschamps, pour moi, il fait de la réelle politique, tout simplement. C'est quand il a besoin d'un joueur qui est performant, il va le chercher et vice-versa. La question maintenant, c'est de se dire pourquoi Giroud est plus en équipe de France. Est-ce mérité? Est-ce injuste? C'est pas forcément juste. Alors, il n'aurait pas été normal, potentiellement, qu'il le rappelle maintenant. Parce qu'il n'y a pas de logique. On a vu sa liste d'octobre. Il n'y a rien en septembre qui fait que Giroud a marqué des gros points pour revenir.
Là-dessus, je ne suis pas d'accord avec toi, mais on en parlera.
Il y a eu le Covid, le limbago. On ne peut pas dire qu'il aurait marqué 5-6 buts au mois de septembre. On dirait, OK, il n'y a rien à dire. Là, en l'occurrence...
Je peux...
Attends, je finis juste sur la liste. Et je pense qu'il a construit sa liste en fonction aussi... de ce qu'il va mettre en place. Il y a des chances qu'on voit un 3-4-3 et que c'est une liste de continuité en se disant bon, la Finlande, ça a bien marché comme ça, on va continuer ainsi et on fait confiance aux mêmes, même si, il faut le dire, tous n'ont pas été bons au mois de septembre. Donc je pense qu'il y a de ça et honnêtement, je ne sais pas justifier le retour de... En fait, c'est plus bizarre de ne pas l'appeler en septembre que de le rappeler en octobre pour moi.
Sauf qu'entre-temps, il y a eu une rentrée internationale qui ne s'est pas super bien passée. Oui. Sauf qu'entre-temps, on a un Anthony Martial qui... Alors oui, il a marqué, mais il cherche toujours. Je crois que c'est 2 buts en 30 sélections. Ouais. Donc, le critère sportif...
Oui, mais...
Voilà, moi j'ai du mal à... En fait ce que j'ai du mal à comprendre avec Olivier Giroud, alors c'était vrai en septembre, ça allait encore plus vrai en octobre. Tu ne peux pas dire pendant des années... Attention Olivier, si tu ne trouves pas une place de titulaire dans un grand club, eh ben, tu vas finir par perdre ta place. Et quand Giroud finit par trouver une place de titulaire, il ne l'appelle plus. Il y a quelque chose qui ne tient pas. L'argument sportif, pour moi, ne tient pas.
Mois de septembre, il a pas joué des masses non plus.
Je suis d'accord. Mais il a prouvé aussi par son absence son utilité en équipe de France. Il faut se souvenir des deux premiers matchs des Bleus. Mmh. Alors oui, on a tendance à l'oublier après avec la Finlande, mais on était tous là à se dire Giroud, il aurait quand même fait un petit peu de bien, surtout face à un Martial, à Ben Yedder, enfin voilà, des joueurs qui ont quand même du mal à exister en équipe de France. Pour revenir sur le côté rancunier de Didier Deschamps, je suis d'accord avec toi, il n'est pas rancunier. Gignac, Ben Arfa, Benzema, Payet, Rabiot. Adrien Rabiot, il faut se souvenir. Le nombre de joueurs qu'on pensait condamnés qui ont fini par revenir. Donc Giroud, s'il en aura besoin, je suis d'accord avec toi, peut-être qu'il le rappellera. Pourquoi pas pour la Coupe du Monde ou avant. Voilà. Ça prouve qu'il n'y a pas de sanctions définitives. En revanche, ça prouve qu'il y a des sanctions aussi. Parce que tous ceux que je viens de vous citer, et on peut en rajouter, ça prouve que Didier Deschamps, le critère sportif n'est pas toujours, ça c'est normal, vous me direz, n'est pas toujours son critère numéro un. Alors, il y a Gignac, il y a Ben Arfa, il y a Benzema, il y a Rabiot, il y a Lacazette, il y a Nasri, il y a Ruffier. Des joueurs qui, à un moment donné, avaient sur leur seule performance sportive leur place dans cette équipe de France et qui n'étaient pas appelés par Didier Deschamps. Depuis 2013, on trouve une bonne dizaine de joueurs comme ça. Et pour la première fois, on a Olivier Giroud qui, pour moi, rentre dans cette catégorie. Et donc, ce n'est plus le critère sportif pour moi. C'est pour ça qu'il n'est pas rancunier, mais il n'est pas d'une franchise absolue quand il dit que c'est le critère sportif qui guide son choix au moment de faire la liste, et notamment d'écarter Giroud.
Moi, je le répète, je pense que c'est de la réelle politique. C'est-à-dire qu'il se retrouve face à un problème. Il y a eu un point d'achoppement pendant l'Euro. La fameuse phrase de Giroud, parce que le problème de Giroud aussi, c'est qu'il dit ce qu'il pense en général.
Exactement,
le problème,
il est trop franc.
C'est une qualité, mais il est franc, voilà. Souvenez-vous, c'est post-France-Bulgarie, il marque et il dit les ballons n'arrivaient pas tout de suite en première mi-temps. On a compris qui il visait, c'est évidemment Kylian Mbappé, qui aussi l'a très bien compris. Voilà. Didier Deschamps, il s'est retrouvé face à un problème. Il a pris Giroud, Mbappé. Il sait lequel dont il a le plus besoin et c'est
et,
aussi
et
celui.
Et tu peux rajouter Benzema avec lequel non plus les relations ne sont pas non plus fantastiques.
Oui, ouais. Mais après, il pèse le pour et le contre. Il se dit de qui j'ai le plus besoin. Oui, c'est peut-être injuste pour Olivier Giroud, pour tous les services rendus. Et ça ne veut pas dire que Giroud n'est pas utile, mais à un moment, la logique de groupe derrière, elle se fracasse si Didier Deschamps continue comme ça. Donc, je trouve qu'il a été injuste au moment de la rentrée quand il a taper sur Olivier Giroud, parce que je pense que c'était pas le seul fautif, mais c'était un peu l'exutoire, on va dire, le défouloir, pardon. Et en revanche, c'est vrai que j'étais étonné, parce que vous avez vu Olivier Giroud, c'est un grand classique de l'histoire de l'équipe de France, au moins sur les 20-30 ans. Avant une liste, vous regardez Téléfoot, et très souvent, il y a un joueur qui a très envie de venir en équipe de France qui va parler. Mais en général, le joueur qui vient, il dit « Oui, j'ai très envie, les Bleus, c'est dans le coin de ma tête, je fais tout pour, etc. » Et avec Raymond Domenech, ça marchait très très bien. J'ai jamais listé, mais je me souviens que souvent, le dimanche, le gars qui venait en téléfoot était dans la liste du jeudi. Bon, il était performant aussi, mais n'empêche que ça marchait bien. Raymond Domenech devait regarder téléfoot. Là, le problème, c'est qu'Olivier Giroud, il est venu et il a été franc. Il a dit en gros « Moi, ce qui m'a surpris, c'est pas tant de ne pas être dans la liste, c'est de ne pas être prévenu avant. » Bon, voilà, ça ne pouvait pas encourager Didier Deschamps à venir le chercher. On n'est pas entré dans un combat de coq, parce qu'il n'y a pas de combat de coq, là. Et je pense qu'il n'est pas condamné, ce qui fait qu'il n'est pas rancunier. Je pense qu'il y a toujours eu des exclus. On va parvenir à Jacquet avec Cantona, Domenech avec Pires et Julie. Là, je pense que là, c'était beaucoup plus de la rancune qu'un choix sportif, parce qu'il compte quand même ce choix sportif. Il ne faut pas oublier que Giroud, finalement, il a perdu sa place. Il n'est plus avançant titulaire depuis que Benzema est revenu. C'est un bon, un mauvais choix, ça c'est Giroud, on pensera ce qu'il en veut, mais n'empêche que c'est ainsi. Donc je pense qu'il n'y avait pas non plus, c'était pas illogique. Maintenant, je pense en effet qu'il n'est pas condamné, parce que tu l'as dit tout à l'heure, tu as donné la liste qui est longue comme le bras. Maintenant, Deschamps est là depuis 9 ans en équipe de France. Les joueurs qui partent, qu'on pense ne plus revoir, finalement, il n'y en a pas eu, hormis quand ils ont eu un déclin sportif, il n'y a pas eu de fâcherie monumentale à dire qu'un joueur qui était revenu au sommet ne revenait pas. Donc je pense pour moi qu'il n'y a pas de raison de condamner aujourd'hui Olivier Giroud, mais la route est longue et elle se tient aussi à lui de jouer très 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 régulièrement avec le Milan AC et de marquer beaucoup.
Avant le rassemblement des Bleus lundi, on aura une affiche qu'on aime bien en Ligue 1, une vraie belle affiche qui sent fort le soufre, un derby avec Saint-Étienne 20e et bon dernier du championnat qui reçoit l'OL. Le derby, c'est toujours un événement, un derby qui devrait être une nouvelle fois marqué par le talent d'un joueur qui n'en finit plus de nous surprendre. Si bien qu'on en est à se demander avec Maxime s'il n'est pas le meilleur joueur de Ligue 1 en ce début de saison. On parle évidemment du Lyonnais Paqueta. Maxime, est-ce que pour toi, le Brésilien aujourd'hui est ce qui se fait de mieux dans le championnat de France?
Ouais, enfin, il fait partie d'une shortlist très très resserrée des excellents joueurs du championnat de France. Sur ce début de saison, on peut mettre Dimitri Payet, évidemment, qui avec l'OM est plutôt pas mal. On peut mettre aussi, on parlait tout à l'heure, d'Achraf Hakimi, qui sur le côté droit avec le PSG est plutôt bon. Mais Paqueta, il y a quelque chose qui est formidable avec lui, c'est que, en fait, quand il est arrivé à Lyon, je savais pas trop quoi penser, ouais, tout simplement, parce qu'il arrivait de l'AC Milan, première expérience en Europe. Bon, c'était pas génial et on a toujours l'impression que les joueurs qui quittent ces clubs-là et qui arrivent en situation de semi-échec vont venir se rattraper ou on ne sait pas trop quoi s'attendre. Et puis finalement, on s'est rendu compte que c'était un joueur qui est assez formidable. Il est jeune, ça faut toujours le rappeler, 24 ans. Je trouve qu'il a une maturité qui colle pas avec son âge. Et puis évidemment, le meilleur exemple de ses grands matchs et de ce qu'il sait faire, c'est ce qu'il a fait évidemment face au Paris Saint-Germain, la courte défaite de Lyon 2-1. C'est un joueur... C'est marrant parce que je trouve qu'il a le jeu, la technique d'un Brésilien et la grinta d'un Argentin, pour faire simple. J'ai l'impression d'avoir un mix de ce qu'on fait de mieux en Amérique du Sud, c'est-à-dire qu'un type qui peut être très dur pour récupérer le ballon, pour aller le chercher et se mettre dans les basses œuvres, et en revanche, être flamboyant devant. D'ailleurs, vous l'avez vu contre Brøndby, il était en position très avancée, ce qui fait dire que c'est un mec hyper, hyper complet. Et c'est très impressionnant parce que Lyon, je pense que Lyon tient vraiment une perle. Je ne sais pas combien de temps il restera à Lyon, mais en tout cas, il faut vraiment en profiter parce qu'il a vraiment les qualités. Voilà, je le redis, moi, quand je le vois, si on ne me disait pas, on ne me donnait pas son nom, on me le montrait sur le terrain, je ne sais pas si j'aurais dit que c'était un Brésilien. Voilà, parce qu'il a vraiment ce côté très complet d'aller chercher les ballons, d'aller récupérer. Et au-delà de les nettoyer, comme on dit, un bon récupérateur, il les nettoie. Non, lui, il les bonifie encore plus parce qu'il est capable d'en faire quelque chose techniquement. Donc là, on a quand même un milieu de terrain qui ressemble c'est pas le milieu de terrain parfait, mais il y a le milieu de terrain total et on serait très content, je pense, dans plein de clubs d'avoir des joueurs de ce calibre-là.
Pour moi, les trois meilleurs joueurs de Ligue 1 depuis le début de saison, je mettrais Payet. Après, je mettrais un Parisien, j'hésite, entre Mbappé pour le poids des stats ou Herrera pour la régularité. Mais au-dessus, je mets Paqueta. Parce que aucune grosse équipe de Ligue 1 n'est aussi dépendante d'une individualité que Lyon avec Paqueta. Après, je ne dis pas que c'est le meilleur dans l'absolu, le meilleur joueur de Ligue 1. Je veux dire, Messi est en phase d'adaptation. Il y a Neymar qui court après sa meilleure forme. Il y a Mbappé qui a un peu le moral dans les chaussettes. Donc, c'est un constat fragile. Mais c'est le constat d'aujourd'hui. Voilà, on enregistre cette émission le 1er octobre. Voilà, le 1er octobre, pour moi, c'est Paqueta qui fait le meilleur début de saison. C'est un meneur de jeu absolu pour moi. C'est exactement ce que tu as dit. Je ne vais pas rajouter, là-dessus. Il est déjà dans la meilleure équipe de Ligue 1 l'an passé. Et surtout pour moi, et ce qui est important pour Lyon, c'est qu'il apporte une régularité dans les performances. Trop souvent, ces dernières saisons, Lyon avait d'excellents joueurs. Je pense notamment à ses jeunes. Je pense à Aouar, par exemple. Je pense même à Depay ou à d'autres qui sont partis depuis. Qui pouvait être formidable dans les grands matchs, qui pouvait être monstrueux en milieu de semaine en Coupe d'Europe, mais qui traversait quand même quelques temps faibles qui coûtaient des points à Lyon. Paqueta, alors il a eu un début de saison qui n'était pas à la hauteur de ce qu'il fait maintenant, mais bon, retour de Copa América, etc. Donc voilà. Mais quand même, disons qu'en 2021, ce qu'il fait, franchement, c'est. Au-delà du fait qu'il atteint des très très hauts, mais il y a déjà des joueurs de Lyon qui ont atteint des très très hauts, lui, il est régulier là, dans ce niveau-là. Et c'est ça qui me fait dire qu'aujourd'hui, non seulement il est meilleur joueur de Ligue 1 ce début de saison, mais surtout, qui porte Lyon et qui peut les porter très très haut.
Mais ce que tu as dit, c'est important pour la régularité, parce que c'est une équipe de Lyon, et ça, c'est quels que soient les entraîneurs.
Exactement.
Qui a souffert d'un manque de régularité, c'est-à-dire que, en gros, pour faire simple, capable équipe de se défoncer. Regardez les matchs face au PSG il y a 2-3 ans où ils sortent des matchs de dingue. Et puis après, ils retrouvent le quotidien et ça marche moins bien. Un manque de lecture qui était parfois dû aux entraîneurs, Genesio, Garcia. On avait souvent l'impression que ça changeait de système dès que ça marchait moins bien. Et même des joueurs, parce que prenez l'effectif lyonnais, prenez les joueurs. Il est fantastique l'effectif. Mais le problème, c'est qu'une fois à Aouar, c'est très très bien, ça disparaît. Guimaraes, c'est très très bien, ça disparaît. Kadewere, c'est très très bien, puis ça disparaît. En fait, c'est un roulement. Je pense qu'il y a très peu de clubs de ce niveau-là qui ont une profondeur telle et un delta tellement éloigné entre les bonnes performances et les mauvaises performances. Donc là, ils ont Paqueta et c'est à lui justement de peut-être tirer aussi les gens, j'allais dire, vers le haut et vers une forme de régularité parce que c'est encore une fois assez formidable ce qu'il a fait. Et je reviens, ce qu'on lui reprochait à l'AC Milan, c'est intéressant parce que c'est son entraîneur qui lui reprochait ça, Gianpaolo, qui disait « il est trop brésilien ». Ben, là, vous voyez comme il a progressé. C'est-à-dire que quand on dit « vous êtes trop brésilien », c'est en général que vous en faites un peu beaucoup avec le ballon. Ben oui, il est capable d'en faire encore beaucoup avec le ballon, mais c'est à bon escient, et de faire le sale boulot comme il est. Donc là, vraiment, encore une fois, je le répète, c'est vraiment une perle. Et aujourd'hui, oui, c'est dans les trois meilleurs joueurs de Ligue 1, facile. En ce moment, évidemment, dans un championnat où vous avez Messi, vous ne pouvez pas être le meilleur joueur du championnat. Mais en tout cas, de l'instant et de la saison qui vient de débuter, oui, largement, il est largement dans les trois.
Je connais très bien Maxime. Ça fait longtemps qu'on se côtoie. Hein. Ça fait 5 ans de Stream Team. Je crois qu'on avait démarré en 2016. Et je sais reconnaître quand il est fier de lui. Et en préparant l'émission, il me dit « Oh putain, là, j'ai une punchline. » Et alors, j'ai essayé de deviner dans l'émission quelle était cette punchline-là. Et je pense…
Et je pense que je ne l'ai pas trouvée. Parce et qu'elle ne marche pas bien, justement.
Je pense que je l'ai trouvée.
C'était quoi ?
C'est pas il est aussi brésilien qu'argentin.
Bah, figure-toi, non.
Parce que.
Vraiment.
Parce que t'avais l'air fier de ça quand même, Maxime.
Non, mais.
Et j'avoue que c'était pas mal. Et j'avoue que c'était pas mal, mais c'était pas ça. Alors, c'était quoi ta grosse punchline ?
Non, c'est pas une punchline, mais j'aimais bien mon histoire de réel politique, mais je me suis rendu compte que c'est un truc qui parlerait seulement aux vieux. Ça, ça marche moins. Tu vois, non, mais c'est pour ça.
Une nouvelle fois, tu connais pas ton public, réel politique.
Je connais pas mon public. Ouais. Bah, oui. La réel politique, je me suis dit, j'aimais bien le côté.
Moi, non, mais brésilien-argentin, j'ai bien aimé, Maxime.
Ouais, c'était pas mal, ouais, ça c'est un.
Ce sera, en tout cas, la vidéo sera titrée comme
oui,
ça.
Bah, sur oui, cela dit, je me suis douté en le disant.
Voilà, exactement. Voilà, parce que, alors, on vous rappelle quand même, parce qu'il faut quand même rappeler ça, que là, vous nous écoutez peut-être, sans doute. Donc, déjà, merci. Mais vous pouvez nous retrouver aussi.
Et que vous êtes allé jusqu'ici.
vous êtes allé jusqu'ici, ça c'est quand même dingue. Et vous pouvez nous retrouver donc les meilleurs moments de cette émission et pour voir le pull Carbor Maxime aujourd'hui, il faut aller sur eurosport.fr. Et vous avez les meilleurs moments de l'émission, c'est-à-dire toute l'émission, globalement.
Ouais, et on peut dire aussi, c'est bien ça, toute l'émission, les meilleurs moments. On peut vous dire aussi qu'à partir de la semaine prochaine, on a un dispositif spécial autour de la Ligue des Nations.
Exactement.
Puisqu'on repart en mode championnat d'Europe ou Coupe du Monde. C'est-à-dire que de mercredi à dimanche soir, vous aurez une stream team quotidienne. Donc si je ne m'abuse, vous aurez donc 5 stream teams la semaine prochaine pour le prix d'une, voilà, et autour de l'équipe de France. 100% évidemment. Pensez évidemment aussi à nous mettre 5 étoiles quand vous allez sur vos plateformes. Abonnez-vous sur Apple Podcasts, sur Acast, sur Spotify, si vous voulez, Deezer, etc. Comme ça, comme vous le savez, vous avez la petite notif qui apparaît, qui vous dit hop, la nouvelle stream team est là. Vous avez juste à cliquer, vous nous écoutez, donc tout va bien.
Merci à Maxime, merci à Quentin pour le visuel, merci à Adrien pour la réal et merci à Daniel Mitterrand aussi, qui m'a bien remonté le moral.
Vive la République. Et vive, la France.
Et vive le FC Stream Team. Rendez-vous la semaine. Non, rendez-vous mercredi. Alors
mercredi, voilà. Mercredi en avant-match de France-Belgique. Et puis tous les jours jusqu'à la fin de la semaine. Salut.
Ciao, ciao.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.